Et bienvenue en ce mois de février sur Radio Grand Air, votre émission mensuelle consacrée à la culture, la langue occitane. Jean-Claude Dugros, Marie-Hélène Désert, avec, comme maintenant on prend l'habitude, un invité par mois.
Oui,
c'est un voisin qui vient nous rendre visite.
Et puis quel invité !
Eh oui.
Voilà. Aujourd'hui, donc, on a la chance, on a le plaisir de recevoir Sylvain Roux, voilà, qui est un ami et qui fait beaucoup, beaucoup de choses pour la culture, pour la culture occitane en particulier, mais aussi pour les autres cultures, ce qui est rare et ce qui est quand même très important, parce qu'avec Marie-Hélène, on a eu l'occasion d'en parler. Marie-Hélène nous a parlé d'espéranto il n'y a pas longtemps. Voilà, mais aujourd'hui, on va parler d'occitan, on va parler de langue arabe, de poésie arabe. Voilà.
On a aussi parlé parfois de musique portugaise, je me souviens une fois.
Voilà. L'occitan s'ouvre à toutes les cultures sans aucun problème. Voilà, et aujourd'hui, bonjour Sylvain.
Eh bien, bonjour à tout le monde.
Voilà, donc je rappelle que notre émission, c'est une émission sur l'occitan, mais elle n'est pas en occitan parce que. Pour respecter les gens qui ne comprendraient pas éventuellement la langue. Voilà. Donc, mais rassurez-vous, il y aura quand même un peu d'occitan dans notre émission. Mais on va commencer par une chanson, justement, pour nous mettre l'eau à la bouche, puisque Sylvain, après, va nous expliquer d'où vient cette chanson et pourquoi on la passe aujourd'hui. Voilà. Donc, ça s'appelle « Dessus la grabe des Bourdeaux ».
C'était la navigation, on n'avait pas de moteur à ce moment-là.
Voilà.
On naviguait à la rame, on descendait la Dordogne à la rame, et quand il y avait des crues, on descendait sur l'ancre.
Vous pouvez expliquer un peu la méthode de cette descente de la rivière?
La descente de la rivière, il fallait avoir beaucoup d'attention pour passer.
Voilà, on remonte le temps, mon cher Jean-Claude.
Oui. Voilà, ben, Sylvain, tu peux peut-être nous expliquer un peu donc cette chanson que l'on vient d'entendre avec un monsieur qui raconte un peu. C'était un gabarit, non c'était
oui. C'est un projet que j'avais mené quand j'étais responsable de la Sonothèque des archives départementales de la Dordogne. On avait monté ce projet avec Yann Laborie, qui travaillait au musée de la batellerie et au musée, en général, les musées de la ville de Bergerac à cette époque-là. Et donc on a fait du collectage sur la Dordogne pour rencontrer les derniers informateurs. Et Henri Gontier était vraiment un des derniers qui habitait à Saint-Caprès de la Lende, entre le canal et la rivière. Et voilà, c'était passionnant d'avoir un témoignage direct d'une époque complètement révolue. Il me reste des vestiges, hein, des vieux quais abandonnés, des bateaux quelquefois enfouis dans la vase, etc. Voilà, donc on avait fait un diaporama à la suite de ça. Et quand j'ai monté ce trio, donc avec mes enfants qui s'appellent Bateo, j'ai réuni mes deux fils avec moi. Évidemment que j'ai souhaité refaire un lien avec le travail que je faisais à 30 ou 40 ans pour les archives de la Dordogne, pour raconter l'histoire de cette rivière et en musique. Et là, le chant qu'on entend, la Déchu le grave des Bourdeaux, c'est une chanson qui a été collectée par les abbés Casse et Chaminade. Et on va commencer par parler des...
On en reparlera.
On va reparler peut-être après. Voilà, ce sont deux abbés musiciens qui ont fait un travail énorme à la fin du 19e siècle.
Oui.
Et voilà, qui ont publié un livre et on va en reparler tout à l'heure.
Oui.
Voilà, et cette chanson... Donc Bateau, c'est tout le répertoire que j'ai choisi de transmettre à mes enfants dans ce trio. Ce sont des chansons que je n'avais quasiment jamais chantées et qui parlent de la rivière, de la mer, de la batellerie, des bateaux, etc. Voilà.
Et comment est-ce que, pardon, est-ce que tu peux expliquer comment ces collectages ont fait leur place là en Dordogne? Quelle en a été l'ampleur? Qui étaient les opérateurs de ces collectages?
Par rapport à la Sonothèque des archives?
Oui.
Alors ça c'est, disons que, sans refaire toute l'histoire, ce sera un peu long, mais donc en 1985, j'ai passé un diplôme d'état d'animateur culturel au sein de la délégation départementale à la musique, avec Guy Schneller à l'époque, à qui je pense, parce qu'il m'a beaucoup donné, beaucoup apporté. Et à cette époque-là, les archives départementales réfléchissaient à une section, on va dire, archives sonores, archives audiovisuelles, ce qui n'existe n'existait pas encore. Et quand ils ont vu le travail que je menais déjà à la Dame 24, où j'allais voir sur le terrain des vieux musiciens de bal, mais que je n'enregistrais pas encore, je prenais des notes, que j'ai toujours d'ailleurs, et ils ont dit, bon, nous, ça nous intéresse, la musique, mais pas que, il va falloir aller vers d'autres sujets du département, de l'histoire du département, des choses qui ont été oubliées ou mises de côté, où on n'a rien. Et voilà, et donc on a créé cette sonothèque le 1er octobre 1986, je suis rentré aux archives, place Hoche, et voilà, et puis j'ai commencé à faire du collectage sur le terrain, en choisissant soit des thèmes qui m'étaient apportés par d'autres services, d'autres associations, quelquefois, voilà.
Alors quel lien est-ce que ça avait avec les différents collectages, les différentes campagnes de collectage qui ont été faites par, je crois, l'Agence culturelle de la Dordogne? Ce sont deux choses différentes.
Ça, c'est beaucoup plus tard. Mémoire de demain, c'est venu beaucoup plus tard. Ce qu'a fait Olivier Pujassou, c'est-à-dire là, en plus, c'est une collecte vidéo. C'est-à-dire on met quelqu'un en face et là, on filme et on pose des questions sur les fêtes, sur les cérémonies, etc., les proverbes, les contes, les chansons, évidemment. Donc ça, c'est venu beaucoup plus tard. Là, on est dans les années 80. Donc dans les années 80, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a Thierry Bois Vert, qui a fait déjà du travail de collectage et qui m'a aussi bien aidé au début de cette aventure-là, puisqu'on a fait le projet sur Élie Dupeyra, compositeur de musique populaire de Ribérac. Voilà. Et puis aussi, il y avait les Isonaires qui commençaient quelques années après à faire du collectage. Jean-Claude Pouyadeau en a fait, Alain Gonidou, Pijassou aussi, certainement. Enfin, voilà. On est dans les balbutiements, nous, au début des années 80, là-dessus. Et la Sonothèque, ben, va se se poser en 86 dans cette démarche-là de collectage et de restitution auprès du public, parce que c'est pas collecter pour garder, mais bien collecter et à partir de là diffuser. C'est-à-dire qu'on a fait des disques, pour la batellerie c'était un diaporama, ça peut être pour du Péra, il y a eu un livre qui a été écrit, etc. C'est-à-dire remettre l'histoire aux gens qui l'ont faite, voilà.
Et de façon à ce que les différents acteurs du monde culturel s'en saisissent et transmettent à leur tour.
Exactement.
Transforment.
Quand on a fait Parfum de Bal, donc c'était les musiciens de bal des années 20 aux années 50-60, il y a eu une exposition. Cette exposition tourne encore aujourd'hui. Et elle est gratuite d'ailleurs, je le précise, il suffit de s'adresser aux archives, et ça tourne. Vous dansez Mademoiselle, c'est pareil, c'est un travail d'exposition qui est accessible gratuitement aux associations ou aux gens qui ont envie de faire venir cette exposition, et donc l'histoire continue à revenir à l'histoire.
Je me souviens qu'on l'a vu à Occitanie à mon amour il y a quelques années, oui.
Voilà.
Ouais. Donc la chanson qu'on vient d'entendre là, elle fait partie d'un spectacle.
Alors, des chulographes, on le joue dans Bateau, le oui, trio avec Méphiston qui a été créé donc en octobre, là, 25. C'est tout frais.
D'accord.
C'est tout frais. Voilà.
Et on va écouter une deuxième chanson, peut-être, de ce même spectacle.
Yeah.
Voilà, entre la rivière et la mare. C'est important, il faut faire un petit aparté là, parce que la rivière, contrairement à ce qu'on pourrait penser de la rivière, etc., eh bien ce n'est pas la rivière, ce n'est pas l'eau. Ah. La rivière, c'est ce qu'il y a à côté de l'eau, ce qui longe l'eau. Ce sont des terres d'ailleurs très riches, parce que quand l'eau déborde, comme en ce moment, ben, ça fait des alluvions, et puis ça fait, c'est très riche, donc après on peut travailler cette terre, et voilà, et c'est ce qui a fait la richesse, d'ailleurs, entre parenthèses, des berges de la rivière de la Garonne. Ça fait drôle, de la... voilà, la Garonne, quand elle a débordé, ben, c'était une richesse extraordinaire pour les gens qui étaient au bord, parce qu'ils pouvaient, moi j'ai connu l'époque, on faisait quatre cultures au bord de la Garonne, avec l'alluvion des débordements de Garonne. On ne dit pas d'ailleurs la Garonne, on dit Garonne. Ah. Alors revenons à notre rivière. Voilà, donc la rivière, donc voilà, Saint-Pardoux, la rivière, Saint-Fond, la rivière. C'est pas la rivière, c'est pas le village n'est pas construit dans la rivière. Le village est construit à côté, au bord de la rivière. Voilà. Et pourquoi au bord de la rivière? Parce qu'une rivière, c'est riche. C'est l'eau, c'est quelque chose de très précieux.
Voilà. Et puis c'est donc un moyen de transport, la rivière aussi. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler des paroles de cette chanson qui sont très spécifiques?
Alors en fait, c'est entre la rivière et la mer. C'est pas l'Omar, oui, c'est l'Omer,
c'est vrai.
Parce que tout simplement, il s'arrange pour faire la rime. Aïvi lo palom keder. Voilà, c'est pour ça qu'ils disent l'Omer. Mais c'est un mot français, la mer, on est d'accord. Non, en occitan, c'est l'Omar. Et après, c'est une chanson énumérative qui va parler de la palom. Aïvi lo test de la palom, aïvi l'usuel de la palom, aïvi l'upé de la palom. Voilà, tout, c'est une chanson qui, à chaque refrain, donc le couplet, ce sera une description, une énumération de la palombe. Et toujours collectée par les deux abbés Casse et Chamina dont on va parler tout à l'heure.
Tout à l'heure.
Quelle pression, quel suspense, Jean-Claude, c'est ça.
Et tu nous as parlé hors micro tout à l'heure de tout le travail de son qu'ont fait tes fils sur ces chansons.
Oui, alors bon, Romain, c'est l'aîné, c'est plutôt lui qui est dans la musique électro, la musique informatique, hein. Il travaille il récupère aussi des sons, et après il les transforme, il rentre dans les paramètres, il les modifie pour que ça sonne à son oreille originale, dense, riche, etc. Quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui sculpte en fait, qui se satisfait pas que de la matière existante, mais il va peaufiner ça et ça lui prend un temps infini, mais c'est un passionné. Voilà, après Étienne, donc le second, lui va lui aider pour dire ben ça oui, ça non, enfin voilà, il travaille de concert, on va dire. Étienne étant plutôt aux accordéons, clarinette, synthétiseur, mais c'est lui qui est dans la pratique et dans la création informatique, et c'est Romain plutôt, voilà.
Mm-hmm. Donc vous êtes tous les trois parfaitement complémentaires.
Ben, disons que symboliquement, j'avais envie, bon, on a toujours fait de la musique depuis tout petit, j'ai une photo où on les voit tout gamin, ils ont entre 3 et 5 ans, et je joue avec eux, et cette photo, elle est symbolique, parce qu'on a fait ça tout le temps, ils ont grandi, on a toujours improvisé ensemble pour les fêtes familiales, pour, je les ai embarqués dans des fêtes traditionnelles, dans des festivals comme Saint-Pierre-d'Aurillac, je les ai amenés à Uzest, chez Lubat, ils ont découvert tout ça, et là, maintenant qu'ils sont vraiment adultes, puisqu'ils ont 40 ans passés, et que moi je suis en fin de carrière, je me dis tiens, ça serait bien de terminer, on va dire, comme ça, tous les trois, enfin, à ce qui me concerne, eux ils ont un duo qui fonctionne très bien, qui s'appelle IR, qui est basé aussi sur la musique électro, où ils injectent de temps en temps des thèmes traditionnels, parce qu'ils ont grandi là-dedans, hein, dans la musique traditionnelle. Voilà, donc voilà, c'était le moment opportun de créer ce trio-là, voilà.
C'est assez exceptionnel. Sur la durée d'une vie familiale, oui. Comme ça, cette constance de la pratique musicale. Beaucoup de familles vont t'envier.
Oui, j'espère, parce qu'en fait, c'est un grand, grand plaisir de partager la musique avec ses enfants et d'avoir su les faire traverser des moments difficiles. Et l'apprentissage dans les conservatoires, c'est pas toujours aisé, et surtout à la période de l'adolescence, où ils ont plutôt envie d'aller voir ailleurs. Et il faut leur faire comprendre que la musique, pour qu'elle existe, il faut qu'elle ait une pratique sociale. associative, voilà, de partage. Et ça, à chaque fois, moi, pour prendre le pendant, me dire du conservatoire où il faut la discipline, il faut travailler son instrument tous les jours, il faut faire le solfège les soirs, etc. Après, les devoirs. Donc, il faut, si on n'est pas derrière, en tant que parent, c'est difficile. Moi, j'étais, voilà, à la fois père et musicien. Mais c'est difficile, il faut tenir le truc, mais il faut leur montrer à quoi ça sert. Et moi, je les ai amenés dans des harmonies, on a joué à l'harmonie de Saint-Germain, Mons, chaque fois qu'il y avait une occasion, qu'ils sentent vraiment que jouer de la musique avec d'autres gens et que les gens viennent vous écouter, vous dire ah, c'est super et tout, eh bien, ça motive un enfant, ça motive un adolescent. Quoi. Et ils savent pourquoi ils font ça, pourquoi on se donne autant de mal à travailler tous les soirs d'arrache-pied son instrument. Quoi.
Ouais, c'est la musique au service de l'humain et pas l'inverse en fait.
Voilà. Bel exemple, bravo Sylvain. Voilà, on va écouter une chanson, donc, la troisième de ce spectacle, on peut appeler ça un spectacle.
Oui, bateau, voilà.
Ça s'appelle bateau,
voilà, donc bateau. Oui.
Voilà. Alors est-ce qu'il y aura un CD?
On peut y penser. Pour l'instant, on a fait donc la création Roxane à Bergerac en octobre. On a joué 15 jours après à la quinzaine occitane de Roquefort, là dans le Lot-et-Garonne. Il y a des choses à venir, plutôt sur 2027 d'ailleurs, parce que comme les calendriers se font très en avance, donc 26, on n'a rien pour l'instant. Et à part si, il y a le Sans Réserve à Périgueux qui serait intéressé pour nous prendre en résidence une semaine. Ça nous permettrait de peaufiner la lumière qu'on n'a pas eu le temps de faire véritablement à Bergerac. Puis il y a toujours des choses à travailler, dans la musique aussi. Donc voilà, donc on va continuer comme ça, et peut-être plus sur 2027. Quoi.
Alors pour les une ou deux personnes qui ne comprennent pas l'occitan, parmi les milliers qui nous écoutent, je rappelle que bateau, ça veut dire bateau. Alors le morceau s'appelle Roussignoulet d'un boy. C'est très joli ça, hein. Roussignoulet d'un boy. Petit rossignol d'un bois. Thank you.
Voilà, petite escapade. Alors, avec
un rossignol.
Un rossignol, exactement.
Le rossignol qui est... avec le perroquet, d'ailleurs. Chez les troubadours, on trouve souvent le perroquet. Il y a un très beau poème sur le perroquet dans un verger.
Donc, la thématique du rossignol, oui. On la trouve effectivement beaucoup chez les troubadours. Cette chanson n'est pas de l'époque des troubadours, mais par contre, la tonalité, la modalité, on peut dire, c'est un mode, est beaucoup utilisé par les troubadours. Et c'est pour ça que je l'ai choisi dans le duo dont on va parler maintenant, oui. Qui s'appelle Un troubadour en Orient, parce qu'on part d'une chanson donc d'un troubadour, et je chante celle-là pour faire le lien, en montrant qu'en fait, des siècles après, cette thématique est toujours présente. Et c'est toujours l'histoire de ce rossignol, c'est un peu le témoin de l'amour difficile donc, entre un homme et une femme. Et donc il est souvent, on lui demande d'aller porter le message.
Messager,
voilà,
oui.
C'est un peu le messager, ou demander des conseils. Comment tu ferais-toi à ma place? Voilà, c'est un peu ça.
Oui.
Est-ce que tu peux parler donc de ce duo? Comment tu l'as constitué? Comment cette rencontre s'est faite avec le musicien dont tu vas nous parler?
Oui, alors Arete Mehdi, ça c'est une belle histoire. Arete Mehdi a fui la guerre en Syrie en 2013. Il est arrivé donc d'abord en Turquie, où il a vécu 3 ans, où il a fait de la musique là-bas aussi. Il a fait un disque avec des musiciens turcs. Et après, il a choisi de quitter la Turquie. Ses parents sont partis vers l'Allemagne. Et lui, il a atterri à Bordeaux. Il est resté quelques temps à Bordeaux. Et après, il est parti sur Paris. Et il se trouve qu'en 2017, Nicolas Lux, qui était le directeur artistique d'un festival qui s'appelait Printemps au Proche-Orient, à Périgueux, et qui est devenu Horizon, sur la culture du Moyen-Orient, nous met en relation tous les deux. Il avait vu ce qu'il avait posté sur YouTube, qu'il avait enregistré au Rocher de Palmer à ce nom. Et comme il connaissait aussi mon parcours, j'avais déjà joué avec des musiciens japonaises, donc il savait mon ouverture et mon aisance, on va dire, à travailler avec des cultures étrangères à la mienne. Et il me dit, voilà, est-ce que vous feriez un duo tous les deux, là, au musée Vizuna, dans le cadre du festival? Et puis voilà, on s'est vus 2 heures au conservatoire de Bordeaux. Il ne parlait pas français, je ne parlais pas arabe, je ne parle toujours pas arabe. Lui, il parle français maintenant très bien. Et on a fait de la musique, ça a très bien marché.
Donc, alors, il faut dire qu'il joue du luth?
Oui, on va dire du oud, c'est un luth,
oui,
voilà.
Pour ceux qui le luth oriental.
Le luth, ouais. Oui, oriental. Et donc, on s'est promis de se retrouver. Et on a mis 9 ans, et on a fait ce duo qui est tout frais, puisque là, c'est fin janvier 26. Donc, on a fait le pari et le choix artistique de mettre en parallèle un poème d'un troubadour occitan, et en face, un poème d'un grand poète arabe de la même période. Voilà, si c'est un poète 11e siècle, et il y a vraiment de très très belles choses.
Donc il y a plusieurs poètes arabes.
Oui,
plusieurs troubadours.
Exactement. Après, soit on utilise des musiques existantes, on a des traces, donc des mélodies des troubadours. Soit on a aussi des musiques traditionnelles de Mésopotamie, puisque Arete est de cette région-là. Et après, on improvise beaucoup. Comme pouvaient le faire les troubadours, voilà, à partir des modes, à partir des rythmes, et chacun va sur le territoire de l'autre, voilà, et ça donne quelque chose d'assez... il faut écouter, hein, c'est le mieux.
Allez, on va écouter. Thank you.
ses courbes et ses méandres nous tente plus que des lèvres près de se rendre.
متعطف مثل السوار كأنه
et la plaine sertie de fleurs ce bracelet qui sinue et scintille en nuées constellées.
قد رق ظن قد رق حتى ظن قرصا مفرغا من فضة في بردة خضراء.
L'eau s'amincit ici et là jusqu'à répandre son arc d'argent fondu sur le vert manteau tendre.
وغدا تحف به الغصون كأنها هدب يحف بمقلة زرقاء.
Sur ses bords, au matin, frissonne la ramure, ainsi que frémiraient les cils d'un œil d'azur.
ولطالما عاقيت في مدامة صفراء تخضب أيدي الندماء.
Là, que de fois me suis-je livré à ce vin dont les lueurs jaunies teignaient toutes les mains.
والريح تعبت بالغصون كأنها ذهب الأصيل على نجين الماء.
Cependant que le vent jouait dans la feuillée et que l'or du couchant dans l'argent se noyait.
Laisser la parole, Sylvain, parce que tu vas nous expliquer.
C'est un peu compliqué.
On a entendu de l'occitan, on a entendu
de l'arabe.
De l'arabe.
Alors, justement, on parlait de miroir entre le poète troubadour occitan. Donc là, ce texte-là, c'est Guillaume IX d'Aquitaine, donc on va dire le premier troubadour connu de l'histoire, hein, Guillaume IX d'Aquitaine. Et donc, c'est un... Là, en fait, ce que je fais, j'improvise une mélodie à partir de son texte à lui.
Parce qu'il faut dire quand même qu'on connaît très très peu de mélodies.
Oui, il y a,
Et surtout, là, il n'y avait pas les rythmiques. On a quelques notes, mais pas de rythmique sur la musique.
Là, c'est laissé libre cours, on va dire, à l'interprète, au musicien. Donc celui-là, il n'y a pas, on n'a pas la mélodie. Donc j'improvise, et donc en parallèle, en miroir, arrête, il chante un texte, en fait, de Ibn Rafadja, qui est un poète arabe de la même période, donc 11e siècle, qui lui était de Valence en Espagne, c'est la période donc dans l'Andalous. Et c'est un poète qui a consacré sa vie à la poésie et surtout sa poésie à la nature. Voilà, qui font un lien évident entre les troubadours et les poètes arabes, quoi. Mmh. Voilà.
Donc on a beaucoup parlé des correspondances entre ces musiques tout le tour de la Méditerranée, donc tu confirmes que ça n'est pas une lucubration, mais...
Alors, je ne suis pas un spécialiste, et il y a controverse là-dessus, donc moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est pas d'avoir, on va dire, savoir qui a influencé qui. Il y a eu des influences, c'est pas possible autrement. Guillaume IX d'Aquitaine, il a suivi donc la deuxième croisade avec Louis VII et la deuxième croisade, il est parti en Orient donc, et il est resté un an et demi. Comment peut-on penser qu'il n'ait pas rencontré des musiciens orientaux? Il n'y a pas eu que des combats, des guerres pendant un an et demi, c'est pas vrai, il y a eu des moments de paix. Donc ces gens-là, forcément, il y a eu rencontres, voilà, découvertes, etc. Je suis en train de lire un livre passionnant de Mohamed Benzenran, qui a publié ça en 2024, qui lui affirme et démontre que ce sont les poètes arabes qui ont influencé les troubadours en occitan. Voilà. Donc, je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Moi, ça me plaît. Cette idée me plaît. Justement, mais surtout au jour d'aujourd'hui, ça peut aussi nous faire une leçon et d'humilité, de fraternité, de paix entre les peuples, de savoir reconnaître que le monde arabe nous a apporté des choses plus riches qu'on ne le pense. Quoi. Voilà.
Mais au-delà de savoir qui, de la poule ou de l'œuf, il y a malgré tout une remarquable homogénéité tout autour de la Méditerranée, sur le plan culturel. Mais ça, sûr. Il faut aussi le reconnaître.
Oui, oui, oui. Et puis pareil, pendant 7 siècles, quand même, la présence des Arabes, des Berbères en Espagne, les troubadours descendaient dans les royaumes de Castille, de Léon, etc. 7 siècles, c'est pas rien. Alors, eux, ils n'ont pas duré 7 siècles, mais quand même... On peut pas rester comme ça inerte et vraiment hermétique. Mm-hmm. Non, ils se sont vus, ils se sont entendus, ils se sont certainement appréciés. Donc voilà, moi ça me plaît, cette idée plaît. Mais donc ce duo, il est fondé là-dessus. C'est-à-dire un troubadour en Orient, c'est vraiment faire fonctionner l'imaginaire. Qu'est-ce qu'un troubadour qui va en Orient voilà, découvre cette culture, lui il a ses chansons, il entend la musique de l'autre, il entend les poèmes de l'autre, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ben, on n'a aucune trace comme quoi ça a été fait, mais nous on le fait, 1000 ans après on le fait, c'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est pas un projet de rétrospective ou de nostalgie, pas du tout, c'est un projet très actuel, quoi.
Ouais, et puis qui s'inscrit dans un courant. D'autres artistes aussi ont poursuivi cette démarche de rencontre et qui n'est pas sur du vent. Enfin, c'est vraiment fondé sur des éléments concrets, palpables de notre histoire.
C'est sûr. Ouais. Et cet auteur-là, Mohamed Benzenran, il fait aussi, il décortique pas uniquement la poésie et la musique, il part de l'architecture, de l'influence arabe sur l'architecture. Hier soir, j'en suis là, parce que je suis aux trois quarts du livre, il parlait aussi, par exemple, que la création, par exemple, des Templiers, des Hospitaliers, c'est vraisemblablement appuyé sur la connaissance de déjà les chevaliers arabes avaient déjà un fonctionnement comme ça, c'est-à-dire que pour protéger, on va dire, la progression de l'islam, ils avaient aussi des moines guerriers, c'était ça, qu'eux, ils avaient déjà. Et nous, quand les croisés, on va dire, je dis nous, mais les francs vont là-bas, ils découvrent aussi ce système-là. Et très rapidement, ils se sont dit, il y a quelque chose à faire aussi. Voilà, ils défendent cette thèse. Et voilà, moi, je lis... je me documente et je trouve ça intéressant sur les influences. Voilà, faut pas penser qu'on a inventé tout seul.
C'est qui vont même très très loin, puisqu'on dit que dans le nord de l'Angleterre, les danses d'épée viennent probablement de ce que les gens ont ramené des croisades.
Mais pourquoi pas, voilà.
Et puis les instruments, le bouzouki, le bouzouki irlandais vient probablement du sud.
Mmh. Oui. Et puis le luth qui va être chez nous à la Renaissance, à la période baroque, qui est un instrument magnifique, provient naturellement du oud arabe, quoi, oriental, c'est sûr.
Oui, la lutherie était tellement proche.
Mais oui.
Oui, on ne peut que l'imaginer, oui, oui, tout voilà. À fait.
Allez, tu nous mets l'eau à la bouche, on va écouter encore un autre morceau.
المكان البهيج أن يحيينا نهر أظله دوح عليه أنيق بورق الأفنان والماء يجري وعائم وغريق من جنى الريحان
Sylvain Roux et
Arret Mehdi.
Voilà, c'est bien. Arret Mehdi.
Voilà, Qu'est-ce que tu peux donner le programme des prochaines semaines, puisque le 7 mars, c'est chez toi, à Razac de Saussignac, mais il y a aussi d'autres concerts.
Oui, il y a le 3 mars, c'est à Bourou, au Café Lib, donc près de Villamblard. Le jeudi 5, ça sera à Pessac, c'est un concert chez l'habitant. Aussi.
Quel Pessac ?
Pessac à côté de Bordeaux.
Sur Dordogne.
Ah non, Pessac, oui. Pessac de la région de Bordeaux.
Et oui, oui.
Après le 6 mars, c'est à la Brouette, Saint-Aubin-de-Lanquet, 20h30. Et donc on finit à Razac de Saussignac, à l'insoliste chez moi. Et là, ça sera à 18h. Et après, il y a un repas libanais préparé par mon ex-cousine libanaise. Voilà.
Et donc, il faut quand même réserver,
là,
puisque
réserver parce que
les places sont déjà prises pour moitié.
Oui, voilà, il faut le dire.
Voilà. Et le concert est indissociable du repas,
oui.
Puisqu'il faut tout de même préparer pour un certain nombre de personnes,
exactement.
Etc.,
oui,
pour des questions d'intendance.
Exactement.
Voilà. Donc, c'est dans l'espace que tu avais créé, chez
oui.
toi.
Oui, oui.
Tu peux nous en parler ?
Oui, oui, j'avais créé l'Insoliste, donc ce lieu qui était fait pour des stages et des concerts autour de l'improvisation. C'était en 2006. Il y a eu une première salle. Et en 2012, j'ai ouvert une deuxième salle, plus confortable et échauffée, qui n'était pas le cas de la
première.
Parce
que c'était dans ta grange, au départ.
Non, c'est une ancienne épicerie, oui, à Razac, oui. Mais vraiment, avec la cheminée, c'était chouette de faire la soupe à la cheminée, boire le chabrol après, mais quand même, des fois, quand on culminait à 17, c'était bien.
C'était
bien
spartiate. Tôt.
Voilà. Et puis voilà, donc là, ça sera dans la deuxième salle, qui sera confortable. Voilà. J'étais quand même plutôt en sommeil depuis quelques années, parce que je me suis aussi, même si j'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis un peu épuisé à organiser, communiquer, faire la soupe, etc. Mm-hmm. Voilà. Mais c'était une belle époque. Là, je le rouvre momentanément parce que c'est bien de finir avec Arret à la maison, et surtout avec ce repas libanais qui va être tout à fait dans la tonalité quoi, orientale.
Voilà, donc il faut réserver, hein, oui. Parce que vers la fin, il n'y aura sans doute plus de place. Donc voilà. Le 7 mars, c'est le concert le plus proche dans la région foyenne, voilà, si vous voulez y assister.
Oui, 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 c'est sûr.
Et puis on peut peut-être parler du calendrier de tes ateliers.
Ah oui, ben toujours
Jean-Claude.
Nos ateliers. Donc à Bergerac, il y a deux ateliers. Donc le lundi matin, 10h30 midi, au Cantou. Et puis le mercredi après-midi, 14h30, 16h, à l'Union familiale bergeracoise. Voilà, et le vendredi après-midi à 15h à Saint-Laurent-des-Hommes.
Et puis alors à Port-Sainte-Foy, donc l'atelier Occitan en pays foyen, qui se déroule tous les 15 jours à la salle du Bois Doré, donc près de la RPA de Port-Sainte-Foy, avec une petite nouveauté, c'est que un mercredi sur deux, donc intercalé avec le premier atelier, il y en a un deuxième qui est consacré aux fondamentaux de la langue avec une méthode plus, on va dire, plus accessible pour les débutants. Et donc vous pouvez démarrer à tout moment de l'année, vous vous annoncez simplement et vous venez nous voir. Donc c'est à 20h30. Et donc il y a de l'occitan toutes les semaines maintenant à la salle du Bois Doré. Voilà. Voilà.
Alors, quand j'ai dit, j'ai parlé de mes ateliers à moi, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a d'autres ateliers d'Occitan à Bergerac, et on a des copains qui font des ateliers aussi, il y en a les abeilles à Bergeracoises, il y a un atelier à Montbazillac, il y a un atelier à l'UTL, enfin, il y a plusieurs...
De Bergerac ?
À Bergerac, oui. Voilà, donc il y a plusieurs ateliers. Je crois qu'il doit y avoir une quarantaine, un 35-40 ateliers d'Occitan en Périgord. Alors, bien sûr, dans le nord du département, mais oui, il faut... Les gens qui veulent s'intéresser à la langue, à la culture occitane, il n'y a aucun problème. Ils peuvent, voilà, bon, mais c'est, des fois, c'est pas... C'est chauffé.
C'est chauffé, oui.
Il n'y a pas de problème.
Ajoutons aussi qu'il y a un atelier de danse traditionnelle, on n'en parle pas assez, à Sainte-Foy-la-Grande, le jeudi soir, qui est sous la tutelle de Galiao, et qui s'appelle Danse à Ambe. Donc avec tout un groupe très sympathique de personnes qui apprennent des danses de différentes origines, pas seulement du sud de la France, avec des intervenants et un calendrier de bals alentour qui permet de vraiment mettre en pratique ce qu'on apprend.
C'est curieux, c'est pas curieux du tout, mais je veux dire, il y a un engouement pour le baltrad. À un moment donné, c'est tombé, c'était, bon, le baltrad, ça faisait un peu, c'était... Mais là, maintenant, chaque fois qu'il y a un baltrad, il y a un monde fou. Il y en a eu un à Mussidan, début janvier, mais c'est incroyable. Il y avait peut-être, je sais pas, la salle était pleine, il y avait Pierrot, des jeunes. Le baltrad, mais c'est vrai que Marie-Hélène, tu peux nous en parler mieux que quiconque.
Puisque... Et en ce moment, je ne fréquente que très peu les bals, ou même pas du tout. Donc, mais effectivement, et puis il y a des ponts entre les différents styles de danse, puisque là récemment, l'atelier de musique trad de Gardonne, qui se réunit tous les vendredis en période scolaire à partir de 18h30, vous êtes bien entendu cordialement invité si vous jouez d'un instrument acoustique. A récemment fait une initiation pour des danseurs de salon avec des danses traditionnelles de différentes origines. C'est très très plaisant d'avoir affaire à des danseurs confirmés parce que tout de suite les gens comprennent ce qu'on fait, tout de suite ils entrent dans la danse collectivement. Ce sont toujours des moments très chaleureux, très sympathiques. Donc ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est le côté transversal, c'est-à-dire le fait que les gens ne restent pas dans leur précaré mais vont voir à côté ce qui se passe. Ça, c'est très intéressant.
Et voilà, c'est un peu l'exemple...
Voilà. Tout à fait. Voilà. C'est la musique, la danse, Sylvain, sont des emprunts permanents aux uns et aux autres, des correspondances, des rencontres.
Alors, on peut déjà donner rendez-vous à nos auditeurs pour le mois prochain ou dans 2 mois, suivant les disponibilités de Sylvain. On vous parlera à ce moment-là d'un projet qui nous tient tous à cœur, à différents niveaux, mais qui nous prend beaucoup de temps. Mais c'est un plaisir.
Une émission n'aurait pas suffi, donc voilà. Cette émission-là sera exclusivement consacrée.
Donc, on s'est mis en tête, on a fait le grand projet de rééditer, mais plus que rééditer.
Oui. Augmenter.
Augmenter, avec traduction en français, ce qui n'existait pas au départ, les vieilles chansons patoises du Périgord, qui s'appellera plus comme ça d'ailleurs. Voilà, donc c'est le collectage des abbés Casse et Chaminade au début du premier livre sorti en 1902. Et puis on s'est rendu compte que les abbés Casse et Chaminade, ils avaient continué à collecter. Et on a trouvé à la bibliothèque de Périgueux, à la médiathèque de Périgueux, un grand, grand dossier avec le premier livre, bien sûr. Mais en plus, ils avaient incorporé
des manuscrits.
Des manuscrits.
Qui n'ont jamais été publiés puisqu'ils sont morts. En 1922, tous les deux, ils avaient projet de le publier autour après la guerre de 14, et puis ça ne s'est pas fait. Donc plus d'un siècle après, on va enfin publier ces 400 chansons traditionnelles du Périgord.
Oui. Et cette fois, en orthographe normalisée, je crois.
Voilà.
Avec la traduction en français.
Traduction française, musique.
Il y aura un QR code sur la partition qui renverra donc sur Internet. Pour le non-lecteur, pourra écouter la musique et donc l'apprendre plus facile. Ben voilà, on a essayé de penser à tout le monde. Et voilà.
Super.
On reviendra me parler.
C'est probablement un des plus gros projets concernant ce patrimoine-là qui est existé ces dernières années. C'est un projet considérable, avec une portée qu'on est sûrement loin d'imaginer pour l'instant encore.
C'est une co-édition, donc, Nouvelhume, IEO du Périgord, et le Bournat du Périgord, voilà, le Bournat qui était à l'origine de la première édition en 1902. Voilà, donc je crois que ça prouve encore une fois... l'entente qu'il peut y avoir entre plusieurs associations. On a essayé de dresser l'une contre l'autre, il fut un temps, mais qu'aujourd'hui, c'est fini, on marche la main dans la main.
pourvu que ça dure.
Voilà, exactement. Ben c'est un peu, c'était un peu la guéguerre entre le folklore et les intellos, quoi. Je veux dire, c'était un peu la... Voilà, il y avait d'un côté le félibrige, le truc, la danse, les vieux costumes, les vieux instruments de musique, les vieilles chansons patoises. Et puis, de l'autre côté, il y avait l'IEO, l'Institut d'études occitanes, qui, eux, c'était l'académie, c'était la langue... La belle langue, c'était la littérature, l'édition, c'était l'enseignement. Donc, bon, aujourd'hui, tout le monde travaille la main dans la main.
Et on peut imaginer que dans les années qui viennent, ce sera le ferment de nouvelles créations sur ces musiques dont beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler jusqu'à présent.
C'est sûr, il y a des magnifiques mélodies que personne ne connaît et qu'il faut que chaque musicien puisse découvrir, s'en emparer et faire sa création comme il le souhaite, quoi. Vraiment. Je pense que les Bretons, les Corses et les Basques vont nous envier quand ils vont découvrir ce répertoire.
Oh, super.
Belle conclusion.
On se retrouve le mois prochain donc pour la suite
de
notre entretien avec notre invité. Et puis on se quitte justement avec une dernière création. On va écouter tout de suite sur Radio Grand Air, Moulaya.
Adichats.
Adichat à tous, c'est Alko Kevin.
Voilà.
Aliou.
Ils m'ont lancé des menaces parce que j'ai pris le deuil d'un ami que le fer, las, m'a pris sans que je le veuille.
رحم الله من يجود بدمعي أو يروح على قدره للأعادي.
Dieu prenne pitié de celle qui sanglote sans tarir et pleure la mort cruelle que ses ennemis lui firent.
هددوني من أجل لبس الحداد
Quelques pays lointains où sa tombe enfin repose, faites que tous les matins de beaux nuages l'arrosent, de manière aussi glorieuse que sa main fut généreuse.